Bonjour, le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été, 1h10 pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine, avec nos invités jusqu'à 13h50. Bienvenue. Parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'aide massive de l'État à destination des grands groupes Airbus, Air France, Renault, entre autres. Parce que l'actualité économique retient surtout les plans de restructuration et de licenciement dans les plus grosses entreprises françaises. Nous voulions ce samedi regarder derrière les grands arbres médiatisés dans la forêt immense des PME, poumons économiques de la France, qui malgré une légère reprise de l'activité en ce début d'été, disent pour la moitié d'entre elles craindre une faillite dans les prochains mois. La crise sanitaire risque d'être fatale pour nombre d'entre elles et nous recevons ce samedi le nouveau ministre des petites et moyennes entreprises. Bonjour monsieur le ministre, bonjour Alain Griset.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nos studios sur France Culture. Vous avez été nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Lumaire. Vous êtes Alain Griset, ancien chauffeur de taxi. Vous présidiez l'Union des entreprises de proximité jusqu'à ce que Jean Castex vous fasse venir au gouvernement. Alain Griset, qu'est-ce qu'un artisan, on dit bien artisan taxi, voilà, qu'est-ce qu'un artisan aux prises tous les jours avec la vie solide peut apporter à une table de conseil des ministres auprès de pairs qui, pour beaucoup, viennent de la haute fonction publique, qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise ou alors uniquement du CAC 40? Qu'est-ce que vous en attendez de ce mandat?
Tout d'abord, dire que je suis à la fois heureux, fier et reconnaissant au président de la République et au Premier ministre de m'avoir nommé. Et dire que par l'intermédiaire de cette nomination, c'est aussi un message, je crois, qu'ils ont voulu faire passer à ces près de 3 millions de chefs d'entreprise qui représentent l'économie de proximité. Le Premier ministre a beaucoup utilisé le mot de territoire dans sa déclaration de politique générale. Et c'est vrai que s'il y a des entreprises du territoire, c'est bien les entreprises qui sont dans ce ministère. Je rappelle, les entreprises artisanales, commerciales, les professions libérales, les entreprises, les start-up, les ETI et les PME jusqu'à 250 salariés. Et donc c'est 98% du tissu entrepreneurial français dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, naturellement, avec Bruno Le Maire. Et ce sont les entreprises qui, effectivement, peuvent manifester de l'inquiétude au regard de la situation sanitaire surtout, mais qui ont aussi été beaucoup accompagnées par l'État depuis le début de la crise. Vous avez dit qu'effectivement, les grands groupes, c'est significatif, il y avait des montants très importants qui avaient été attribués à quelques grands groupes, mais la plupart des entreprises qui sont dans ce ministère ont aussi bénéficié de dispositifs assez d'ailleurs innovants, jamais utilisés, comme par exemple le fonds de solidarité, ce qu'on appelle direct, le PGE.
Le prêt garanti par l'État,
les reports des cotisations sociales et les chômages partiels.
Alain Griset, l'État, dites-vous, a beaucoup aidé ces entreprises pendant la crise, mais pas assez. En tout cas, c'est ce que vous disiez en mars quand vous étiez encore président de l'Union des entreprises de proximité. Vous disiez, le gouvernement n'est pas assez au rendez-vous. L'État doit non pas reporter les échéances de cotisations sociales, mais les annuler. Vous n'avez pas réussi à les convaincre de les annuler pour tout le monde jusqu'à présent?
Vous avez cité une déclaration que j'ai faite en mars, mais vous avez aussi noté sûrement qu'entre mars, avril, mai et juin, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et justement, toutes les négociations qui ont été menées, et déjà à l'époque, j'avais beaucoup travaillé avec Bruno Le Maire, ont quand même permis de beaucoup adapter ces dispositifs.
Donc vous trouvez que ça va mieux?
Donc, très clairement, il n'y a pas d'exonération de cotisations pour tout le monde. Mais par contre, il y a des exonérations de cotisations qui ont été obtenues après ces déclarations, en particulier pour tous ceux qui ont été fermés, donc décision administrative, exonération de cotisation pour 3 mois. Et puis, à côté de ça, il y a des reports de cotisation, mais avec un report jusqu'à 36 mois. Il y a 36 mois pour payer ces cotisations qui ont été reportées. Puis nous continuons à regarder, au cas par cas, des situations qui nécessiteraient là aussi des exonérations de cotisation en dehors de ce qui a été prévu par les secteurs. Puis il y a eu aussi les secteurs dans lesquels il y a eu des opérations plus massives, comme café, hôtel, restaurant, tourisme, où là, on est allé au-delà des 3 mois pour pour accompagner ces secteurs qui sont là dans une situation encore plus difficile.
Que ce soit le report et non l'annulation, donc le report de charges ou les prêts garantis par l'État versés à hauteur de 90 milliards d'euros, tout ça c'est de la dette. Les entreprises, si elles ont de la dette mais pas de fonds propres et qu'elles deviennent insolvables d'ici la fin de l'année, c'est un sujet que vous aviez mis sur la table vous-même pendant les discussions, quand vous n'étiez pas encore ministre. Comment on fait pour toutes celles-là qui sont en train de se présenter, l'expression revient souvent, devant un mur de dette?
Vous savez, c'est vrai que depuis moins de 15 jours, je suis ministre. Ça change naturellement la position. Mais ça ne change pas
Pourquoi
les idées qui étaient les miennes.
Bah
parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui demande. Avant, j'étais représentant. Pas non plus. Parce que,
Balzac disait qu'on ne peut pas être un bon commerçant et généreux en même temps.
Non, mais je veux dire que dans les fonctions précédentes, j'étais en charge de représenter les entreprises en étant demandeur à l'État de dispositifs. Aujourd'hui, je suis là pour écouter ceux qui vont demander et essayer de les accompagner avec les meilleurs dispositifs. Mais croyez bien que je n'ai pas oublié ce que j'ai dit il y a quelques mois, ni il y a quelques années. Bon, et que par conséquent, la question du mur de la dette est pour moi une vraie préoccupation aujourd'hui comme elle l'était hier. Et donc, il y a déjà une première réponse qui est l'étalement du report sur 36 mois. Je pense que quand même ça, c'est très important. Si on peut étaler, c'est une possibilité, mais 36 mois, c'est très important. Et deuxième chose, j'ai évoqué avec Bruno Le Maire, l'arbitrage n'est pas fait encore. Mais je pense qu'il faut qu'on redimensionne les PGE, prêts garantis par l'État, de façon à ce qu'on n'ait pas, dans 10 mois, dans 11 mois, les entreprises qui auront repris encore modérément et qui se retrouvent dans l'impossibilité de payer. Et donc, il vaudrait sûrement mieux trouver la possibilité d'aller au-delà de la première année. C'est déjà possible. Aujourd'hui, jusqu'à 5 ans, la petite interrogation, qui est d'ailleurs pas seulement petite, qui est réelle pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de savoir à quel taux. Parce que beaucoup disent oui, il y a un taux intéressant pendant un an, et ensuite, qu'est-ce que ça sera? Donc, je vais naturellement travailler avec les banques, en accord avec Bruno Le Maire, pour essayer de trouver un dispositif qui permette de sécuriser et de rassurer. Parce que, en économie, vous le savez, la confiance est essentielle. La confiance du consommateur, mais aussi la confiance dans l'avenir des chefs d'entreprise.
Et la confiance des banques dans les chefs d'entreprise. Parce que là, si elles se retrouvent à la fin de l'année avec des entreprises insolvables, elles risquent de ne pas pouvoir accorder de prêts pour investir dans les prochains mois.
C'est-à-dire que déjà, le prêt garanti par l'État, c'est 90% de caution par l'État. Donc si jamais il y avait des problèmes de remboursement, c'est l'État qui serait concerné. Donc moi, je pense que l'État a intérêt d'étaler pour pouvoir récupérer ce montant et pas devoir payer. Et puis, les banquiers, très clairement, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on a demandé aux banquiers des choses tout à fait inhabituelles. On a dit aux banquiers, vous devez prêter à tout le monde.
Elles ont joué le jeu ou
pas? Globalement, oui. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a à peu près 2% de prêts qui n'ont pas été assurés par l'État.
Donc, pourquoi?
Pourquoi? Parce que les situations étaient vraiment très dégradées. Mais l'État a mis en place d'autres dispositifs pour, en particulier, avoir des prêts directs aux entreprises, pour les plus importantes. Donc, l'objectif vraiment très clair, qui a d'ailleurs été annoncé dès le début par le président de la République, c'est de dire il faut accompagner toutes les entreprises. L'objectif, c'est d'éviter d'en fermer. L'objectif, c'est de générer du chômage. Donc, la situation, naturellement, reste compliquée, mais l'objectif reste le même. Et moi, dans ma responsabilité aujourd'hui, ce que je vais faire, naturellement, c'est de continuer d'écouter. Certains pourraient dire oui, il connaît, mais non, on ne connaît jamais tout. Donc je vais continuer au moins une fois par semaine à aller sur le terrain, rencontrer les entrepreneurs, quelle que soit leur activité, quelle que soit la taille ou le statut juridique, regarder si effectivement ils nous proposent des choses différentes. Parce que je crois que l'État doit avoir cette capacité d'adaptation. Ce qu'on va peut-être vivre en septembre-octobre, c'est pas ce qu'on a vécu en mars-avril. Et donc, il faudra qu'on s'adapte à la situation.
En attendant, des entrepreneurs aussi s'adaptent à la situation et l'État a accordé, c'est vrai, des prêts sans contrepartie sociale, ce qui va donc pas, Alain Griset, empêcher les employeurs de licencier à tour de bras. Notamment, il y a des dispositifs qui existent depuis plutôt récemment. L'article 67 de la loi travail, par exemple, qui permet aux employeurs de TPE et de PME de licencier pour baisse d'activité. Il suffit parfois de constater une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires sur un trimestre, voire deux, selon les effectifs, pour justifier ne serait-ce qu'un licenciement. Comment est-ce que vous serez vigilant à ce que cet article 67 de la loi travail ne soit pas trop souvent invoqué par des entreprises qui, entre autres, ont bénéficié d'aides de l'État?
Dans mon parcours, il y a des choses que j'ai constatées, pratiquées, qui sont peut-être relativement méconnues du grand public, mais qui sont la réalité. Vous savez, lorsqu'on retarde un petit peu, on recule un petit peu et qu'on se remet au mois de février, c'est pas si loin que ça. Au mois de février, la préoccupation majeure des entreprises que je représente aujourd'hui, c'était de trouver des salariés. Il y avait une activité qui reprenait, le chômage diminuait, et les entreprises avaient du mal à trouver les salariés qui correspondaient à leurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chômage, hein, mais il y avait une inadéquation entre, quelquefois, les chômeurs et les besoins des entreprises. Et donc, celles des entreprises qui ont des salariés qui correspondent à leurs besoins, je peux vous assurer qu'elles n'ont pas envie de les licencier. Et qui plus est, quand on est une petite entreprise, qu'on vit tous les jours avec ses salariés, on n'invoque pas un article du Code du travail pour diminuer et pour licencier. On a une relation personnelle avec ses salariés. Et donc, à partir du moment où l'État accompagne ses entreprises, chômage partiel, il y a un nouveau dispositif qui va être mis en œuvre de chômage de longue durée, il y a toujours la possibilité d'avoir ces prêts garantis par l'État, il y a toujours ces dispositifs de repos d'exonération de cotisations sociales. Donc naturellement, il peut y avoir des situations où l'entreprise est tellement en difficulté qu'elle s'est obligée de licencier ou même quelquefois de fermer. Mais vous savez, c'est un drame humain quand on ferme une entreprise. C'est un drame humain quand on licencie. Et donc, moi je suis pour un État qui écoute, qui accompagne et qui évite ces situations dramatiques.
Pour éviter les licenciements, certaines entreprises ont signé, alors ça existe aussi depuis 2017, je crois que c'était les ordonnances Macron, ces accords de performance collective qui prévoient de réduire les salaires, de supprimer des jours de RTT en échange du maintien de l'emploi pendant un certain temps. Est-ce que vous savez si de tels accords sont en discussion en ce moment dans des PME ou des TPE depuis la crise sanitaire, Alain Griset ?
De mon point de vue, très peu dans les TPE, très 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 peu. Dans les PME, peut-être quelques-uns, mais ces dispositifs ont surtout été utilisés par les grands groupes. C'est pas une critique de ma part, c'est un constat. Et parce que c'était indispensable dans certaines branches de le faire. Mais ce sont pas, je veux dire, des habitudes d'utilisation dans les petites entreprises. Je rappelle quand même qu'en France aujourd'hui, la moitié des entreprises n'ont pas de salariés. Dans celles qui en ont, 90% ont moins de 10 salariés. Et quand vous êtes dans une entreprise de moins de 10 salariés, il y a une relation entre salarié et l'employeur qui fait que, quand c'est indispensable, on peut passer par là. Mais ce ne sont pas des pratiques courantes.
Alain Griset, c'est vrai que le nombre de licenciements pour l'instant a été relativement limité, mais, et notamment dans les TPE et les PME, on voit que des CDD n'ont pas été renouvelés, que des périodes d'essai n'ont pas été transformées. En tout, ce sont plus de 450 000 de ces emplois qui ont déjà disparu dès le début du confinement d'après l'OFCE. Évidemment, il faut répondre à un état de crise économique, mais ça concerne surtout les jeunes et l'emploi des jeunes. Que les PME sont souvent les premières à vouloir embaucher, notamment par le biais de l'apprentissage. Elles se portent en héros de l'emploi des jeunes.
Merci de le rappeler, parce que c'est très vrai. Historiquement parlant, c'est vrai que ce sont plutôt les petites entreprises qui, sur l'apprentissage, ont été leaders. Et naturellement, aujourd'hui, l'emploi des jeunes est une priorité absolue. Ça a été dit par le président, par le Premier ministre. Beaucoup de dispositifs ont été annoncés.
Annoncés. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un dispositif d'exonération de cotisations sociales.
Contrat d'apprentissage d'abord. 5 000 euros pour les mineurs, 8 000 euros pour les majeurs. Contrat de professionnalisation. Le fait d'avoir des contrats pour les jeunes les plus en retrait du travail sur l'insertion. Tout ce qui concerne le service civique. Tout ce qui concerne les dispositifs de formation. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a, pour tout jeune, une possibilité. C'est ça l'objectif, que chaque jeune ait une possibilité d'éviter le chômage.
Sur l'apprentissage, donc, Emmanuel Macron a annoncé que pour chaque embauche d'apprenti, l'État garantissait le salaire pendant un an. Un jeune peut entrer en CFA désormais sans avoir trouvé de contrat d'apprentissage et y rester 6 mois. Encore faut-il que les CFA aient des candidats. Alain Griset, c'est l'un des symptômes de la délocalisation massive, de la désindustrialisation de la France, c'est que les CFA n'ont plus de candidats. Donc on encourage l'apprentissage, mais encore faut-il qu'il y ait derrière des embauches possibles et des jeunes intéressés.
Si vous permettez, c'est pas tout à fait vrai.
J'ai eu encore, il y a quelques instants au téléphone, quelqu'un qui dirige un CFA dans votre région, dans le nord de la France, qui disait « Moi, pour la rentrée, j'ai très peu de candidats alors que j'ai plein de places à offrir. »
C'est possible, mais globalement, on voit que l'année dernière, il y a eu 16% d'apprentis en plus.
Mais c'était un effet mécanique, puisque c'était au détriment des contrats de professionnalisation.
Et 16% de contrats d'apprentissage en plus, vous parlez des CFA. Bon, et que naturellement, aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de jeunes, parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans les missions locales, il y a beaucoup de jeunes à Pôle emploi. Et donc moi, je ne peux qu'inciter ces structures, je ne peux qu'inciter les jeunes à regarder les possibilités existantes. Donc c'est vrai, très clairement, avant d'être ministre, j'étais président de la Chambre de métiers des Hauts-de-France, un centre de formation dans lequel il y a 8000 apprentis, dans lequel j'avais 3000 places de disponibles. Donc, je vous donne des chiffres. Donc, moi j'avais à l'époque transmis au préfet ces 3000 places pour dire à monsieur le préfet, regardez, il y a 3000 places, regardez avec les structures de l'État comment on peut orienter 3000 jeunes dans ces centres de formation. Donc, aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas de travail et il y a des places dans les centres de formation d'apprentis. Il y a des étudiants qui n'ont pas trouvé de place dans les universités. Il y a des places de formation d'apprentis à tous les niveaux. Et donc, il faut utiliser les outils qui existent. C'est ça, je pense, aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est de permettre d'avoir des possibilités pour les jeunes. Donc aujourd'hui, j'affirme que les jeunes, quelle que soit leur situation, ont des possibilités. Peut-être pas toujours ce qu'ils souhaitaient. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, ils ont des possibilités d'être insérés dans la vie professionnelle. Et le principal, toujours, c'est de commencer à être insérés dans la vie, ce qui permet d'évoluer ensuite. Bon, je ne vais pas citer mon cas qui n'a pas d'intérêt, mais il est évident que quand j'avais 18-19 ans, je n'étais pas programmé pour devenir ministre. Et donc, j'ai dû passer un certain nombre d'étapes.
Vous êtes installé comme indépendant à 22 ans,
je crois. 22 ans, oui, tout à fait.
Alain Griset, le gouvernement a annoncé aussi donc cette série de mesures pour l'emploi des jeunes, un dispositif d'exonération de cotisations sociales à hauteur, pour donner le détail, de 4000 euros par an pour les moins de 25 ans, jusqu'à 1,6 SMIC, donc à peu près 1950 euros net par mois. Sur ces niveaux de salaire-là qui sont bas, les charges patronales sont déjà très réduites. Il existe déjà des dispositifs, le dispositif zéro cotisation URSSAF, par exemple, pour les plus petits salaires. Qu'est-ce que ça va changer, ces dispositions-là? C'est pas grand-chose.
Madame, si vous permettez, 1950 euros pour un jeune qui commence, c'est pas un bas salaire. Ça n'est pas un bas salaire. C'est plutôt d'ailleurs dans les fourchettes supérieures à la moyenne des salaires des Français, qui est plus près de 1500, 1600. Et donc 1900 pour un jeune qui commence, c'est plutôt beau salaire. Deuxième chose, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'exonérations. Mais là, on rajoute un complément. C'est 4000 euros par an. Et donc, c'est un plus. Et tout ce qui est supplémentaire peut être incitatif. L'idée, c'est de dire, allez, l'employeur, aujourd'hui, naturellement, faut-il qu'il y ait un marché. Vous savez, l'embauche correspond aussi à un marché. Bon, sauf quelquefois pour les apprentis, où même quand il n'y a pas de marché, on peut prendre un apprenti, d'abord par volonté d'intégration, de formation, parce qu'on sait qu'un apprenti n'a pas vocation totalement à être rentable tout de suite, et c'est un aspect de formation pour le futur. Donc là, c'est pas totalement lié à un marché. Mais quand vous embauchez en dehors d'un contrat d'apprentissage un jeune, c'est parce que quelque part, il y a une activité économique. Donc, sous réserve de l'activité, aujourd'hui, je pense que les employeurs peuvent embaucher les jeunes parce que il serait dramatique dans cette crise de faire une génération de sacrifiés. C'est pour ça que le président et le Premier ministre ont mis vraiment un accent particulier pour que chaque jeune, je le redis parce que je pense que c'est important, chaque jeune qui nous écoute doit se dire même si c'est pas ce que j'avais prévu, j'ai une possibilité pour rentrer dans le monde du travail. Ce premier pas est important. Le plus dramatique, c'est de pas rentrer dans le monde du travail, de rester un peu exclu. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'exclus.
Donc vous appelez les patrons de très petites et moyennes entreprises à se donner pour les 700 à 800 000 jeunes qui arrivent là sur le marché du travail, c'est imminent. Alain Griset, cette période de crise sanitaire, elle a été aussi mise à profit pour encourager, en tout cas dans les discours, les relocalisations, la réindustrialisation des territoires. Là encore, on parle souvent des grands groupes, mais après tout, leurs usines de production font aussi vivre tout un réseau de sous-traitants qui sont souvent des PME. Alain Griset, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot relocalisation? Parce que j'ai l'impression que tout le monde ne met pas la même chose derrière ce mot. Relocaliser, pour certains, c'est faire en sorte que les usines quittent la Chine ou plus largement l'Asie, mais pour le Maghreb, la Turquie et pas spécialement la France.
Lorsqu'on parle de relocaliser en France, c'est pour que ça vienne en France. C'est pas pour passer de la Chine à la Turquie ou au Maroc. C'est bien pour qu'on ait ou des usines ou des fabrications qui ont disparu de la France. On a entendu parler pendant la crise des médicaments. Bon, le président a dit, voilà, il faut absolument qu'on relocalise un certain nombre de fabrications de médicaments qu'on avait perdus.
Mais seulement donc dans certains secteurs stratégiques.
On ne va pas pouvoir relocaliser la totalité de l'industrie qui a disparu.
Pourquoi?
Depuis quelques années. Parce qu'à un moment donné, il y a des questions de compétitivité. du coût du travail qui fait qu'à un moment donné, on ne pourra pas, ou alors derrière, on dit à tous les Français que tous les prix vont augmenter, parce qu'il y a aussi ces conséquences. À un moment donné, il y aura ce genre de débat sûrement dans la société française, parce que quelquefois, nous sommes tous, les uns les autres, un peu schizophrènes. Hein. On voudrait que tout soit produit en France, mais on veut payer moins cher. Et donc, spontanément, le consommateur regarde c'est quoi le prix. Et on a aujourd'hui, dans notre pays, un coût social qui est très important, puisqu'on a comme le pays dans lequel la protection sociale est la plus forte. Et donc, cette protection sociale, on la paye tous, globalement. Et donc, à un moment donné, ça se reporte sur le coût du produit. Donc, tout relocaliser, aujourd'hui, ça paraît difficile. On regarde les différences de coûts qu'il y a dans le monde. Par contre, on peut sûrement relocaliser une partie de la production. C'est l'objectif du Premier ministre, du Président, le maximum possible. Le maximum possible. Mais il faut aussi mettre l'accent, à l'occasion de cette crise, quand même, sur ce qu'est la France dans ces domaines-là. Bon, moi, j'ai le bonheur d'avoir une fille qui travaille aux États-Unis. En 3 semaines, 45 millions de chômeurs. En 3 semaines.
Votre fille a perdu son emploi ?
Non. Elle a la chance d'avoir une responsabilité qui fait qu'elle ne l'a pas perdue. Mais au-delà d'elle, 45 millions de chômeurs. Et les chômeurs qui sont loin d'avoir naturellement les conditions des chômeurs en France, dont je ne dis pas qu'elles sont extraordinaires, hein, mais c'est zéro là-bas. En France, on a eu la capacité de mettre beaucoup d'argent pour éviter. Il y a eu, vous l'avez dit, 400 000 chômeurs en plus, mais par rapport au nombre qu'on aurait eu si l'État n'avait pas fait le travail qu'il avait fait, c'était relativement peu, même si c'est toujours trop.
Bon. Et donc la relocalisation ?
La relocalisation, c'est de faire tous les efforts nécessaires, y compris en faisant que ça soit moins cher pour les entreprises qui vont relocaliser. Donc Bruno Le Maire a évoqué, comme le Président, la question de l'impôt de production.
Une baisse des impôts de production. Oui, aujourd'hui, ça représente quoi ? 77 milliards d'euros ?
Voilà, donc ce qui est prévu, c'est au minimum, Bruno Le Maire a dit 10 milliards, deux fois, hein, sur 2 ans. Donc il faut maintenant regarder quels seront les impôts qui vont être concernés. Il y a plusieurs possibilités. Il y aura des arbitrages de fait, à mon avis, avant la fin du mois d'août, pour déjà donner un signe, et au-delà de donner un signe, qu'il y ait réellement une baisse du coût du travail pour qu'on puisse relocaliser au maximum.
Ces impôts de production, ce sont des taxes sur le chiffre d'affaires des entreprises collectées majoritairement par les collectivités. Comment l'État va compenser cette perte de recettes fiscales pour les collectivités locales ? On a beaucoup parlé des régions, mais il y a aussi les communes et les départements. Et vous, Alain Griset, vous êtes dans l'équipe municipale où vous étiez, de Noyelles-lès-Séclin dans le Nord. Vous savez l'importance de ces recettes fiscales-là ?
Alors, tout n'est pas sur le chiffre d'affaires. Hein. Il y a des taxes qui sont en dehors du chiffre d'affaires. En fait, c'est un peu complexe, mais c'est aussi le bonheur français de cette complexité. D'ailleurs, c'est un sujet de préoccupation pour moi. Hein. Le fait qu'on puisse avoir des systèmes fiscaux, sociaux moins complexes.
Plus simples.
La complexité dans nos entreprises, c'est ce que j'appelle l'impôt papier. C'est-à-dire le temps que vous passez à faire de la formalité, alors que vous devez plutôt passer à produire. J'ai pas oublié que j'ai été conseiller municipal pendant 6 ans dans une commune de 800 habitants. Mais naturellement, l'État, le gouvernement ne va pas prendre des décisions sans concertation avec les élus locaux. Il y a des impôts qui sont des impôts qui sont des recettes pour les conseillers régionaux. Il y a des impôts qui sont des recettes pour les communes. Il est évident que l'État ne peut pas décider comme ça, arbitrairement. Et donc, il y aura, d'une façon ou d'une autre, peut-être compensation de l'État par rapport aux collectivités locales.
Peut-être.
Peut-être des... Oui, parce que quand il y a négociation, on ne peut pas savoir d'avance ce qui va aboutir de la négociation. Donc il y aura concertation, négociation.
Parce que les régions, elles n'ont pas été les dernières à mettre la main au pot, au portefeuille, pour aider notamment les PME, notamment l'Île-de-France qui se réendette pour aider les PME locales. Alors c'est surtout pour leur accorder des prêts. L'Occitanie, pour les sous-traitants de la filière aéronautique, qui met 100 millions d'euros sur 2020 et 2021, notamment pour la formation des salariés qui perdraient leur emploi. Donc elles ont besoin de ressources aussi pour aider à ce grand plan que vous êtes en train de mettre en place.
Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle que la compétence économique est aujourd'hui dévolue sur le territoire aux régions. Ça l'a été pendant un temps aux communes, aux départements. Depuis la loi de décentralisation, la loi NOTRe, c'est la région qui a ses compétences. Donc celles qui le font, bravo, merci et c'est bien. Ça fait partie de leurs compétences. Elles l'ont fait, elles ont joué leur rôle. Elles ont d'ailleurs été très présentes. D'ailleurs, ça a été dit à plusieurs reprises, les élus locaux, y compris les maires, ont joué un rôle très important dans cette crise. Donc il faut s'en féliciter, c'est tout à fait important et je les en remercie.
Alain Griset, est-ce que certaines PME continuent aujourd'hui à bénéficier du chômage partiel ?
Oui.
Pour combien de temps ?
En tout cas, alors, pour combien de temps ? Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, il y a un dispositif qui existe. Donc le dispositif a été maintenu jusqu'au 1er septembre. Il va y avoir un nouveau dispositif qui va être mis en place, qui va donner une visibilité jusqu'à 2 ans. Donc là, on voit bien que l'État, en tout cas, s'adapte et envisage toutes les solutions. La priorité, c'est d'éviter des licenciements. Je ne dis pas qu'on va réussir à tout éviter, mais d'éviter le maximum de licenciements de façon à ce que la reprise, quand elle sera là, aujourd'hui, elle commence. Dans certains secteurs, elle commence à être intéressante, mais elle n'est pas totale. Il est évident qu'à un moment donné, que je ne sais pas fixer, la reprise sera réelle. Et moi, j'essaye, naturellement, sans nier les difficultés, de se projeter vers l'avenir. Vous savez, là où il y a la petite lumière.
Mais vous ne pouvez pas tellement, on ne sait même pas si on ne sera pas reconfiné à la rentrée.
Mais il y aura une fin, comme tout, madame. Quand il y a la guerre, c'est dramatique, mais il y a bien une fin à la guerre, à un moment donné. Donc il y aura bien une fin à cette crise sanitaire. Je ne sais pas dans combien de temps, mais il y en aura une. Ça, c'est certain. Bon, parce qu'on aura un vaccin, parce qu'on aura un médicament, il y en aura une. Bon, on modifiera peut-être nos façons de procéder, mais il y aura une fin. Et il faut naturellement se projeter pour que cette fin soit la plus positive possible. À quoi ça servirait d'arriver dans une situation où il n'y a plus de problème sanitaire et on soit incapable de produire parce qu'on n'aura plus d'entreprise ? Ça serait encore dramatique. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on maintienne le tissu productif, le tissu d'entreprise, pour être prêt au moment où la crise sanitaire sera finie. J'espère le plus vite possible.
Et à partir de quand vous allez commencer à réfléchir à des mesures plus structurelles ? Après les mesures d'urgence, on s'attaque au long terme.
On y est. On a déjà commencé depuis plusieurs semaines, avant même que j'arrive. Le plan de relance est annoncé. Le plan de relance évoqué à 100 milliards. Il y a un week-end très important au niveau européen pour regarder si l'Europe va avoir une pratique commune, en particulier sur des prêts, entre autres, et sur des subventions. Mais le plan de relance sera annoncé fin du mois d'août, avec une perspective d'accompagnement et pour accompagner l'ensemble des entreprises pour justement être prêts au moment de la reprise. Mais il y a aussi, si vous le permettez, une partie de l'efficacité de la relance dans les mains des Français. En tout cas, dans les mains de ceux qui ont eu la possibilité de mettre de l'argent de côté. Parce qu'il y en a quand même eu 60 milliards d'économies pendant la crise. Et donc ceux qui ont mis cet argent de côté, qui avaient les moyens de le faire, je ne peux que leur proposer que de sortir un peu de cet argent pour contribuer à la relance économique.
Alain Griset, vous êtes un travailleur, vous êtes attaché comme beaucoup de patrons à la valeur travail, vous vous êtes installé à votre compte à 22 ans, on dit que vous n'avez jamais pris de vacances avant de longues années. Ça vous fait quoi d'entendre votre ministre Bruno Le Maire dire que les Français ne travaillent pas assez, que la France est l'un des pays européens où l'on travaille le moins longtemps, il l'a redit encore cette semaine, alors que les Français, ce sont des chiffres Eurostat, travaillent 37,3 heures en moyenne et c'est plus que les Allemands et les Britanniques.
Vous aurez sûrement remarqué, madame, qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait comme moi. Mais vous comprenez aussi que tous les Français n'ont pas fait comme moi. Je ne dis pas que c'est le bon exemple.
Faire comme vous, c'est-à-dire
C'est-à-dire commencer à 22 ans à son compte, pas prendre de vacances pendant 10 ans et avoir une moyenne de 13-14 heures par jour. Bon, je ne demande pas que ça soit pour tout le monde pareil. Hein. Donc je ne vais pas me comparer et je ne vais pas dire que c'est mon modèle qui est le bon. Mais Bruno Le Maire, quand c'est comme ça, ne vise pas ses publics. Il constate simplement qu'au bout du compte, aujourd'hui, on a des déficits très importants et il y a 2 solutions qu'on a des déficits très importants. Ou on augmente les impôts, ce qui n'est pas d'actualité, le président l'a redit, ou alors, collectivement, on produit plus.
Mais on produit déjà beaucoup, la France est une des leaders mondiales, comme on dit, de la productivité en Europe.
Mais la France est aussi un des pays les plus endettés au monde. Bien, c'est un constat. Et donc, à un moment donné, cette dette, il faudra bien qu'on l'assume, nous, ou nos enfants, ou nos petits-enfants. Et donc, à un moment donné, il y a un esprit de responsabilité. Il n'est pas question de dire que les Français ne travaillent pas assez. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille déjà beaucoup qu'on ne peut pas travailler un peu plus pour justement contribuer à éviter. Il y a un choix. Et à la limite, peut-être que d'ailleurs les Français auront à faire ce choix. Est-ce qu'on préfère payer plus d'impôts ou est-ce qu'on préfère travailler un petit peu plus ? Bon, en ce qui me concerne, je pense que le choix de dire on ne paye pas plus d'impôts, on travaille collectivement un peu plus, on produit plus. Alors, est-ce que c'est en temps de travail, est-ce que c'est en productivité, tout ça, c'est les éléments de négociation. Mais en tout cas, je crois que la solution qui consiste à dire on va faire que la dette sera payée par de la croissance est un bon dispositif, est une bonne perspective.
Pour conclure, Alain Griset, est-ce que vous savez si les PME ont pu accorder des congés à leurs salariés ou si leur priorité aujourd'hui, c'est de rattraper les retards accumulés pendant le confinement? Est-ce que leurs salariés ont pu partir en vacances?
Pour la plupart du temps, oui. Mais d'autres salariés, d'ailleurs, eux-mêmes l'ont demandé. Moi, j'ai beaucoup de témoignages dans lesquels les salariés d'entreprises ont dit bah, « Écoutez, on n'a pas travaillé pendant 3 mois, il y a des clients qui attendent. » J'ai les coiffeurs, par exemple. Bon, les clients attendaient, les gens ont dit bah, « Moi, je suis prêt à faire un peu plus d'heures parce que l'entreprise doit reprendre, parce qu'il faut contribuer. » Les salariés, vous savez, ils sont attachés à leur entreprise. Hein. Moi, je ne veux pas faire la différence entre le patron et le salarié, comme si il n'y avait que le patron qui était vertueux et les salariés pas. Les salariés contribuent à l'entreprise positivement et la très grande majorité des salariés en France tiennent à leur entreprise, en tout cas à celle que je représente, et veulent contribuer à son succès. Et donc, quand c'était possible, les salariés sont partis en vacances, et quand c'était utile pour l'entreprise de pouvoir démultiplier l'activité, certains salariés, volontairement, ont contribué à décaler leurs vacances pour produire au moment où il fallait.
Merci Alain Griset. Comment on dit l'adage « à l'œuvre, on connaît l'artisan ». Donc on verra quel artisan vous êtes en tant que ministre, nouveau ministre des petites et moyennes entreprises. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France Culture.
Je suis d'accord avec vous pour que vous puissiez mesurer régulièrement si j'avance ou pas dans les sujets qui me préoccupent et sur lesquels je veux travailler.
Merci à vous.
Merci madame.
Memory Motel, titre des Stones de 1976. Vous êtes sur France Culture, il est 13h15.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
La victoire est encore possible au Sahel, disait Emmanuel Macron le 30 juin dernier au sommet du G5 de Nouakchott. En Mauritanie, que recouvre le mot victoire? Cela reste à définir, puisque dans le cas du Sahel, les groupes djihadistes ne sont pas la seule menace qui pèse sur les populations. Mais alors qu'une force conjointe européenne du nom de Takuba est arrivée cette semaine à Gao, dans le nord du Mali, la France et les pays du Sahel ont-ils pris conscience de ce que la réponse militaire et sécuritaire ne suffisait pas? C'est en tout cas ce qui semblait s'être dessiné à Nouakchott. La promesse d'une meilleure aide au développement, d'un soutien aux structures sociales et politiques locales, pas évident d'ailleurs quand ces structures sont contestées, comme le révèlent les manifestations récurrentes qui ont lieu au Mali depuis le début du mois de juin. Alors pour commencer cette deuxième partie d'émission, on voulait faire d'abord un point sur la situation humanitaire dans les pays du Sahel. Bonjour Patrick Youssef.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis Genève. Vous êtes le directeur régional pour l'Afrique à la Croix-Rouge, le CICR. Une question peut-être naïve, Patrick Youssef, certains groupes armés ont-ils respecté le cessez-le-feu mondial imploré par le secrétaire général de l'ONU? C'était au début de l'épidémie de coronavirus. Est-ce que ça a été entendu? Les groupes armés sont tellement nombreux au Sahel. Est-ce que certains d'entre eux ont déposé les armes pendant un temps?
Effectivement, c'est une très bonne question, parce que la trêve avait pour but de permettre aux acteurs humanitaires, aux acteurs de santé, de faire leur travail, d'avoir accès à ceux et celles qui ont besoin des services de ces organisations, de ces agents de santé locaux, etc. Et il faut admettre que cette trêve n'a pas été respectée. La trêve elle-même, le message politique derrière est effectivement une chose, mais après, la pratique sur le terrain en est une autre. C'est pour ça que nous avons doublé nos efforts, parlé à tous les acteurs armés sur le terrain pour pouvoir accomplir notre mission et puis arriver au mieux possible aux populations qui sont aux besoins. Comme vous le savez, et plus que jamais, les personnes que nous assistons au quotidien ont besoin de toute l'aide possible maintenant, mais surtout après la fin de la pandémie. Et dans ce cadre du Sahel, les combats n'ont malheureusement pas cessé sur beaucoup de fronts et donc les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter, particulièrement dans le Sahel.
Quand vous dites que vous avez parlé aux groupes armés pour notamment avoir accès à certaines zones dans la région du Liptako-Gourma qui est à cheval sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger, comment ça s'est passé? Avec quels groupes armés avez-vous parlé? Est-ce que ça inclut des groupes djihadistes puisque l'État islamique et Al-Qaïda sont présents dans la région?
Vous savez, le mandat du CICR est très clair. On est dans des espaces de conflits armés, de violence, et il est donc c'est une obligation, c'est un devoir de pouvoir communiquer avec tous ceux et celles qui ont un impact direct sur la vie des gens. Et effectivement, en Afrique, le CICR dialogue avec près de 250 groupes armés non étatiques, soit près de la moitié de ceux enregistrés au niveau mondial par notre organisation. Et donc négocier un accès neutre et impartial avec les nombreuses parties au conflit pour atteindre les personnes qui ont désespérément besoin d'aide est de plus en plus compliqué et difficile. Évidemment, la crise Covid n'a pas aidé. Et pour cause, le contexte sahélien se compose aujourd'hui d'un large éventail de forces armées nationales, internationales, de milices armées, de groupes criminels. Et effectivement, nous entamons toujours depuis très 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 longtemps des pourparlers à travers des intermédiaires, avec tous les représentants locaux des groupes armés pour nous permettre d'arriver, pour permettre d'avoir accès aux bénéficiaires, mais surtout également rappeler les termes du droit humanitaire international, à savoir la nécessité, par exemple, durant cette crise, de respecter le travail des agents de santé, de leur ouvrir les voies et effectivement de les aider à accomplir leur travail.
J'insiste juste pour vous demander très précisément si le fait que vous parliez à des groupes djihadistes liés à l'État islamique ou Al-Qaïda est entendu. Enfin, est-ce qu'ils entendent le fait que vous devez aider la population civile?
Vous savez, c'est un travail de longue haleine. C'est des négociations de type humanitaire. Ça ne donne aucun statut à ces groupes armés. C'est des groupes armés qui contrôlent des territoires. Et effectivement, on est très à l'aise avec ce mandat qui nous est accordée par la communauté internationale dans le cadre des accords de Genève. Et effectivement, la divergence et la complexité du contexte sahélien, ainsi que la fragmentation des groupes armés, y inclut au sein des groupes que vous libellez djihadistes, que d'autres appellent terroristes. Pour nous, c'est des groupes armés qui ont un droit et qui ont des obligations vis-à-vis de leur population, y inclut ACMI, Al-Qaïda, le JNIM, etc. C'est des groupes qui ont effectivement une position organique qui vient de leurs espaces, de leurs environnements dans lesquels nous travaillons. Donc on partage cet espace, il est évident que nous faisons ces contacts très ouvertement, bien sûr en connaissance de cause, simplement pour agir comme intermédiaire neutre entre celles et ceux qui ont perdu la voix, qui ont perdu le moyen de communiquer à l'extérieur, donc les personnes qui souffrent aujourd'hui sous un soleil brûlant dans le Sahel, et effectivement le gouvernement ou les groupes armés dans ce contexte spécifique.
Patrick Youssef, les États sahéliens ont été réactifs pour contenir l'épidémie de coronavirus, notamment en fermant les frontières. Est-ce que cette mesure, d'ailleurs je ne sais pas si elle est toujours en vigueur, mais est-ce qu'elle a eu un effet quelconque sur la guerre, sur la circulation d'armes et d'hommes de groupes armés en groupes armés, et puis sur la circulation de l'aide alimentaire, bien sûr?
Alors certainement, au tout début, on a dû s'adapter assez rapidement, effectivement, en toute compréhension de la situation qui régnait dans cette région, en effectivement ayant en tête le manque de moyens. Le manque de moyens, tout simplement, on craignait, comme c'est le cas aujourd'hui, que de nombreux systèmes de santé sont simplement mal ou pas équipés du tout pour faire face aux conséquences directes et indirectes du Covid. Évidemment, nous avons vu quelques marchandises, quelques moyens logistiques mis à rude épreuve, effectivement, parce que la crise, avec l'effet surprise, a exercé une pression supplémentaire sur nos capacités de délivrer. Ceci a été surmonté assez rapidement avec une compréhension des autorités de tous bords, en Afrique particulièrement, avec le soutien de l'Union africaine et des acteurs locaux, qui nous a permis de maintenir notre travail. Et je dirais au contraire, contrairement à l'espace de confinement que nous avons vécu en Europe, moi-même à Genève, mes collègues sur le terrain ont doublé du travail, n'ont pas cessé de travailler. Et effectivement, à l'intérieur des contextes dans lesquels nous travaillons, j'ai envie de dire que Covid n'est simplement qu'une seule composante de souffrance de la population. De plus, les gens, je pense aujourd'hui à Gao ou à Tombouctou, ont besoin de nourriture et d'eau avec des aléas climatiques qui sont assez graves. Et du coup, Covid ne vient que s'ajouter à ce millefeuille de fragilité dans ces régions-là.
D'autant qu'il a fallu fermer non pas seulement les frontières, mais aussi les marchés où, en temps normal, on peut acheter des semences. Patrick Youssef, pour conclure, dans un communiqué récent de la Croix-Rouge, vous déploriez la fermeture d'une trentaine de centres de santé au Burkina Faso, dans la province d'Oudaland, c'est la frontière avec le Mali. Pour quelles raisons ces centres ont-ils été fermés ?
Je dirais simplement que la situation sécuritaire est devenue particulièrement désastreuse dans le nord et l'est du Burkina Faso, à Ouaigouya, à Fada, mais aussi à Djibo, au nord du Burkina, le centre et le nord du Mali, évidemment, dans la région de Diffa et de Tillabéri au Niger. Donc cette région des trois frontières a été particulièrement touchée ces derniers mois. Les raids transfrontaliers et autres attaques de groupes armés ont augmenté ces derniers mois. Et l'effet, malheureusement, c'est sur ces soins de santé, mais aussi sur les écoles et d'autres services sociaux qui ont été simplement interrompus. C'est d'ailleurs, pour revenir à votre question préalable, celle d'avant, la communication avec tous les porteurs d'armes effectivement vise à protéger ces espaces. Et puis, on sait que plus qu'un million et demi de personnes au Burkina Faso ont vu leur accès et aux soins de santé restreints à cause de cette crise, mais je dirais tout simplement à cause de la violence. Vous savez que la crise du Sahel n'a plus son épicentre seulement au Mali. Le Burkina Faso est devenu une partie prenante et majeure partie également de cette crise, ou fait partie de cette crise. Et effectivement, il est clair que, comme dans d'autres contextes, c'est malheureusement les civils qui payent le prix. C'est le manque de respect du droit humanitaire qui pousse les travailleurs de santé à quitter leur poste et puis voir leur centre de soins malheureusement bombardé, attaqué, etc.
Merci beaucoup Patrick Youssef d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur régional pour l'Afrique à la Croix-Rouge, le CICR, et vous étiez en ligne depuis Genève. Merci à vous. Que représente le budget, l'effort humanitaire par rapport à l'effort militaire? C'est l'une des questions que nous allons aborder avec nos deux invités suivants, alors que la force Takuba est en train de s'installer au Sahel. Bonjour Léonard Colomba-Pétingue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes doctorant au Centre d'études des relations internationales de Sciences Po et vous êtes spécialiste de l'action de l'Union européenne au Mali, notamment, et nous sommes également en ligne avec Niagale Bagayoko, que je remercie. Bonjour à vous. Bonjour Niagale Bagayoko, vous
Bonjour.
Êtes là. Bonjour, vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network.
Oui.
Vous travaillez sur la réforme des systèmes de sécurité en Afrique francophone. Vous êtes donc tous les deux avec nous jusqu'à 13h50. La force militaire européenne Takuba est arrivée mercredi à Gao, dans le sud-est du Mali, sur le fleuve Niger. Elle ne sera pas opérationnelle tout de suite, mais Léonard Colomba-Pétingue, pourquoi la France donne-t-elle l'air autant de se réjouir d'un appui européen que pour l'instant, seule l'Estonie apporte techniquement?
Oui. Pour commencer, je pense qu'on commet une première erreur en plaçant des espoirs démesurés dans cette force spéciale dont la vraie plus-value, il faut bien le reconnaître, c'est de faire ce que les instruments de l'Union européenne ne permettaient pas de faire jusque-là, c'est-à-dire suivre au combat, sur le terrain, les forces spéciales une fois qu'elles sont formées. Il y avait jusqu'ici la mission d'entraînement militaire, la mission EUTM et la mission civile, la mission ECAP, qui s'occupait déjà de former les forces de défense et de sécurité, mais qui ont des mandats que l'on dit non exécutifs, donc elles ne peuvent pas suivre sur le terrain les forces de sécurité. Ce sera désormais possible avec la force Takuba.
Quand vous dites les forces de sécurité, des pays sahéliens.
Des pays sahéliens, exactement. Je crois que c'est une victoire diplomatique pour la France, parce que la France a su convaincre les pays européens de la nécessité d'un engagement humain, c'est-à-dire sur le terrain, et pas uniquement financier. Jusqu'ici, l'Union européenne a privilégié historiquement des engagements financiers et a toujours été réticente à s'engager militairement, humainement. En 2013, il y a eu un refus d'engager des battle groups, par exemple, sur le terrain.
Alors et là, il y a quand même encore des réticences. L'Allemagne ne veut pas, la Norvège, oui. Le Parlement n'a pas accepté.
Oui, c'est pour ça que c'est une victoire qui est en fait en demi-teinte. Quand on regarde dans le détail les pays qui ont donné leur accord pour participer à cette force, on se rend compte que c'est des pays qui étaient déjà tous engagés dans la mission EUTM, la mission ECAP. Et de ce point de vue, en fait, la France n'a pas réussi à fédérer, à ratisser de manière beaucoup plus large que les pays déjà convaincus. Il faut bien comprendre que le Sahel, c'est pas forcément une priorité pour tous. J'attire votre attention sur la publication la semaine dernière d'une carte interactive sur le site du Conseil européen pour les relations internationales, qui est un centre de recherche indépendant, qui permet de visualiser les pays qui font du Sahel une priorité. Et en fait, on se rend compte que c'est un sujet méditerranéen surtout, avec des pays, vous avez mentionné l'Allemagne, par exemple, qui montre des signaux, qui se montrent de plus en plus intéressés parce qu'ils ont été notamment marqués par la crise migratoire. Mais c'est vrai que c'est pour ces pays-là difficile de s'engager. Oui.
C'est ça, Niagale Bagayoko, la crise migratoire, c'est un des arguments qu'a avancé la France pour convaincre ses partenaires européens que le Sahel n'était pas un sujet franco-français.
Oui, en effet, c'est l'un des arguments avancés côté français, tout comme la nécessité de prévenir des éventuelles attaques djihadistes qui proviendraient de groupes armés sahéliens. Mais ce lien n'a jamais pu être véritablement démontré. Il y a juste eu un signal à l'occasion de l'attaque qui s'est produite à Colombes, qui est passé un peu inaperçu parce qu'on est dans un contexte de Covid, ou il y a 2 mois, je dirais. Mais on s'est aperçu qu'en effet, l'auteur de l'attaque s'est réclamé d'une allégeance au chef de l'État islamique au Grand Sahara, Walid al-Sahraoui. Mais cette démonstration d'une menace terroriste en provenance du Sahel qui pèserait sur le territoire européen est loin d'être démontré et en tout cas perçu par les partenaires européens de la France. J'ajouterais pour compléter ce qui vient d'être dit qu'il est quand même très important de souligner le fait que d'un point de vue institutionnel, la force Takuba n'a aucun lien avec la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne. C'est-à-dire que la force Takuba est européenne en ce sens qu'elle est composée d'États européen, mais il n'y a pas de lien institutionnel entre cette force et les institutions de l'Union européenne. Ça, il est important de le souligner. Alors, d'un côté, en effet, comme cela vient d'être dit, ça permet d'avoir une liberté d'action et notamment de recourir à des approches létales et d'engagement au combat qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre dans un cadre strictement rattaché à l'Union européenne, mais d'un autre côté, ça démontre aussi la difficulté de mobiliser des instruments dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.
Léonard Colomba-Pétingue.
Oui, c'est aussi lié à des divergences d'approche. Vous prenez un pays comme la Finlande. La Finlande est très impliqué dans la gestion civile des crises, qui est l'un des deux grands piliers de la gestion des crises de l'Union européenne. Mais la Finlande est dans le même temps beaucoup plus réticente dès lors qu'il s'agit de mobiliser l'outil militaire. Donc il y a aussi un certain nombre de pays qui freinent toute initiative militaire. Je pense que cette européanisation, du point de vue français, là où elle est importante, c'est qu'il faut bien avoir en tête que il y a une triple difficulté. Une difficulté liée au coût que représente l'opération Barkhane. On est à plus de 1,5 million d'euros par jour avec cette opération. Difficulté liée à la contestation, on pourra y revenir, du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est soutenu depuis le début par la France. Et puis une difficulté quand même liée à la montée d'un sentiment anti-français dont on peine à vraiment mesurer l'ampleur et la sévérité, mais qui est là, qui est latent, qui n'est pas nouveau. Hein, en 1998, un chanteur comme Alpha Blondie chantait déjà « Armée française, allez-vous-en de chez nous ». En 2019, c'est Salif Keïta qui reprend ce discours-là. Je pense qu'à l'origine de ce sentiment, il y a l'idée que, au fond, la France est un pompier pyromane qui est en partie responsable de la déstabilisation du Sahel. J'étais très frappé lors des entretiens que j'ai pu mener au Niger et au Mali, par le nombre de notamment de députés, d'élus qui pensent que la France n'aurait pas dû intervenir en Libye et que c'est à cause de ça que l'ensemble de la région se trouve dans cette situation.
Que tout viendrait de la Libye.
Tout viendrait de la Libye, sur fond aussi de complotisme, il faut bien le reconnaître, avec qui part au fond d'un étonnement qui est de dire, avec les moyens que la France a, les moyens notamment technologiques en termes de renseignement, il n'est pas normal que des individus en moto, avec des moyens très sommaires, réussissent à instiguer la terreur dans l'ensemble de la région. Donc cet étonnement-là fait dire et fait penser à un certain nombre de personnes que vous rencontrez dans les cercles de socialisation, dans les grains à Bamako par exemple, que la France a un agenda caché. Vous avez par exemple des montages sur les réseaux sociaux où on voit des militaires français qui pillent l'or du Mali. Et ça, c'est une vraie préoccupation et c'est ce qui a justifié le sommet de Pau du président, voulu par le président Macron.
Niagale Bagayoko, la France est-elle considérée par les populations sahéliennes qui aujourd'hui manifestent pour certaines d'entre elles contre la présence française dans la région, est-elle considérée comme complice des exactions des armées sahéliennes cette fois, qui de plus en plus sont documentées? Human Rights Watch notamment fait un gros travail de documentation d'exactions de ces armées, alors notamment les militaires burkinabés accusés d'avoir exécuté 31 un homme à Djibo dans le nord du Burkina Faso récemment. En juin, ce sont les forces de sécurité maliennes qui auraient tué 43 villageois. Human Rights Watch utilise le conditionnel. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Des enquêtes sont en cours. Et est-ce que tout ça, est-ce que la France est mêlée dans l'esprit des populations sahéliennes à ces exactions, accusées d'être complices?
Alors moi, il me semble qu'en effet, ce sentiment anti-France, moi je trouve qu'il est important de le dire et non pas anti-français. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction. C'est vraiment la politique étrangère de la France qui est mise en cause, y compris, comme cela vient d'être dit, de par son intervention en Libye ou de par le constat d'une insuffisance de résultats sur le terrain. Je pense que le sentiment actuellement est beaucoup moins vif qu'il ne l'a été à la fin de l'année 2019. Dans les manifestations que l'on constate aujourd'hui au Mali ou même sur les réseaux sociaux, la France est quand même beaucoup moins pointée du doigt qu'elle n'a pu l'être il y a quelques mois. Pour ce qui concerne cette question des exactions, hein, dont sont accusées les forces de défense et de sécurité du Niger, du Mali, du Burkina Faso, on a reproché à la France son silence initial davantage qu'une implication directe. On a notamment vu que la France a été considérée comme beaucoup trop timide dans la mise en cause de ses partenaires, puisqu'il a été souligné qu'il est quand même très difficile de mettre en permanence en avant le partenariat de la France avec les armées partenaires. Hein. C'est intéressant de voir à quel point ce volet est mis en relief dans tous les communiqués ou les dossiers de presse de l'opération Barkhane, mais on s'aperçoit que on a attendu qu'il y ait une déclaration assez engagée de Joseph Borrell, hein, le chef de la diplomatie européenne, qui a lié l'aide européenne à une conditionnalité en matière de droits de l'homme, pour que la France, en effet, prenne des positions très claires, notamment à travers les déclarations de Florence Parly devant le Sénat, où ensuite, lors du sommet de Pau, le communiqué final est extrêmement clair et condamne très clairement les exactions qui peuvent être commises en demandant que des enquêtes soient menées et que des sanctions soient prises.
Alors, des condamnations très claires, des demandes d'enquête, demandent aussi de respecter les droits de l'homme. Léonard Colomba-Pétingue, est-ce que progressivement, il y a un changement? Alors là, je n'ose pas dire de stratégie, on n'est peut-être pas dans la stratégie, mais d'approche de ce dossier sahélien.
Ce qu'il faut dire du côté européen, c'est qu'il y a toujours eu une grande difficulté à assurer la traçabilité, la maintenance, le suivi des matériels, des formations qui sont données dans le cadre des missions civiles et européennes. Le meilleur exemple de ça, c'est celui de la force antiterroriste au Mali, la FORSAT, qui a été créée par un arrêté de mars 2016, qui est une force composée de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale du Mali, qui est une force qui a été formée par l'Union européenne, mais aussi par la France, par le Canada, par les États-Unis. Et c'est une force dont on découvre qu'elle aurait été impliquée dans la répression des manifestants qu'elle aurait tiré à tir tendu sur la foule, faisant 11 morts. Donc, la question de ce que deviennent tous ces équipements, toutes ces unités créées, formées, c'est une préoccupation majeure pour les institutions européennes elles-mêmes, en fait.
Position très délicate que celle de la France, de l'Union européenne, de l'ONU, qui à la fois veulent continuer à former et équiper les armées sahéliennes, mais des armées qui sont elles-mêmes discréditées, des élites politiques aussi qui sont discréditées. Et ce qui est en train de se passer au Mali est sans doute révélateur des limites de la stratégie française pour résoudre la crise au Sahel, puisque depuis le début du mois de juin, des milliers de personnes manifestent contre le président Ibaka à l'appel du Rassemblement des forces patriotiques, mouvement qui unit militants anti-corruption et partisans de l'imam Diko, un religieux charismatique, figure de proue des partisans d'un dialogue avec les djihadistes au Mali, dont Paris par ailleurs ne veut pas entendre parler. Mais Niagale Bagayoko, comment des élites politiques discréditées, avec des armées discréditées, pourraient reprendre la main dans la région, puisque c'est un petit peu ce qui se dit aujourd'hui de la stratégie qui doit être celle-là aujourd'hui, de laisser les armées et les États reprendre la main.
Alors c'est en effet la grande faiblesse de l'approche actuelle qui, d'une manière générale, à mon avis, s'est concentrée sur un diagnostic de la crise qui était beaucoup trop restreint. Vous avez très bien dit dans votre introduction que la complexité de la situation actuelle au Sahel démontre que les acteurs impliqués vont bien au-delà des seuls groupes djihadistes. Et on voit très bien que, en effet, l'implication dans la Forçat, hein, pour laquelle les autorités maliennes se sont d'ailleurs excusées, hein, en raison du nombre de morts qu'elles ont causées, démontre que se focaliser uniquement sur la formation et l'équipement au combat d'armées qu'il s'agit d'envoyer pour lutter contre des terroristes est tout à fait insuffisant. L'instrument militaire est absolument nécessaire dans la gestion de la crise. Mais la question est de savoir tout d'abord quelle est sa mission. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de considérer que la mission première de l'instrument militaire des forces armées de la région est de lutter contre les groupes terroristes, ou est-ce qu'il s'agit d'élargir leur mission, notamment en termes de protection des populations? Et deuxièmement, on s'aperçoit que la formation opérationnelle, ou en tout cas le renforcement des capacités opérationnelles, est tout à fait insuffisant. Il est tout aussi important de travailler sur le renforcement du respect des droits de l'homme par les États et leurs forces de défense et de sécurité, et non pas simplement à travers des formations qui ont été menées depuis des années en droit international humanitaire, parce que c'est un aspect fondamental, mais absolument pas suffisant. Les droits de l'homme et le droit international humanitaire, ce n'est pas la même chose. Et d'autre part, de travailler sur les missions, sur les cadres d'intervention, puisqu'on voit très bien que là, la question du maintien de l'ordre est absolument essentielle et n'a absolument rien à voir avec la lutte contre les groupes armés terroristes. Pour terminer, il y a un troisième élément qui est essentiel et qui a un lien avec les contestations actuelles en cours au Mali, qui reproche à l'élite politique notamment sa corruption et sa mauvaise gouvernance ou sa mauvaise gestion. Les scandales récents qui sont intervenus au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, qui sont relatifs au détournement des budgets de la défense par la classe politique notamment, ou par des personnes qui en sont proches, démontrent aussi que travailler sur la gouvernance de ces appareils de défense et de sécurité est absolument essentiel.
Alors c'est vrai qu'on insiste toujours sur le mot gouvernance, qui relève par ailleurs de la doctrine des grandes organisations internationales comme le FMI quand elles exigent des contreparties à leur aide financière. Mais aujourd'hui, quand on parle de changement léger de doctrine, de stratégie de la France, notamment au Sahel, on parle de ça, de se concentrer aussi un peu plus sur des réformes politiques ou judiciaires, Léonard Colomba-Pétingue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, puisque pour l'instant, on parle encore une fois, nos interlocuteurs sont des États, les interlocuteurs de la France sont des États qui sont contestés aujourd'hui, qui sont défaillants également.
Donc, je réagis à ce qui a été dit sur la question de la corruption. C'est un vrai sujet, en fait, qui est peu abordé, en tout cas qui ressort peu des grands discours politiques, mais qui est une problématique dont se plaignent beaucoup les acteurs sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de transparence sur les chiffres de la part des autorités maliennes, ce qui est un vrai problème quand on travaille sur la réforme du secteur de la sécurité. On a besoin de savoir.
On ne sait même pas combien il y a d'hommes dans l'armée.
Il y a des chiffres différents avec cette tentation de gonfler les chiffres, parce qu'il y a aussi un intérêt matériel à cela, pour faire partie de ces programme de réforme du secteur de la sécurité. Alors du côté européen, vous avez deux visions qui s'affrontent. Il ne faut pas voir l'Union européenne comme un ensemble monolithique et complètement rationnel. Vous avez une vision politique qui pense que là, c'est le cœur, la gouvernance, la corruption, qui pense qu'il y a des comportements prédateurs qui empêchent, qui freinent les efforts qui vont dans le sens de plus de sécurité. Et face à ça, vous avez une vision pragmatique qu'on ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes en même temps, il faut prioriser l'action, on ne peut pas faire de l'antiterrorisme, travailler sur la gouvernance, etc. Il y a déjà énormément de programmes.
Donc il faut commencer par quoi ?
Pour l'instant, c'est plutôt la deuxième vision qui l'emporte. En fait, je crois que plus globalement, L'approche européenne repose sur un postulat, à mon avis, très contestable, selon lequel les gouvernants maliens ont un intérêt objectif et immédiat à ce que le statu quo bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a beaucoup entendu parler de cette idée de nexus sécurité-développement qui est dans toutes les bouches. Hein. Je crois que les réponses, elles ont été très musclées et parfois maladroites. Dans un pays comme le Niger, vous avez des états d'urgence qui ont été décrétés en fait très tôt, dès 2015, dans la région de Difa, la plus à l'est, où sévit Boko Haram. Vous avez eu des couvre-feux, des fermetures de lieux de marché, de centres de santé, d'écoles. Vous avez eu la prohibition de l'utilisation de certains intrants qui ont eu en fait des effets très contre-productif.
Et forcément, la crise du coronavirus a donné encore plus de poids et de place à l'armée quand il s'agit d'instaurer des couvre-feux ici et là. Niagale Bagayoko, pour conclure cette discussion, vous avez créé, cofondé avec d'autres, une coalition citoyenne pour la voix de la société civile. Qu'est-ce que c'est? Mettre la protection des civils, la sécurité humaine au cœur de la réponse au Sahel, c'est votre ambition affichée. Vous regroupez combien de personnes et quels sont vos moyens d'action?
Alors merci beaucoup de mettre en lumière cette initiative qui provient de 35 organisations sahéliennes, ouest-africaines et internationales qui se veut un cadre informel et très ouvert dont l'objectif est de développer un dialogue constructif et exigeant avec les armées, les États, pardon, plus exactement sahéliens, ainsi qu'avec leurs partenaires internationaux. Parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, il y a une nécessité qui a été parfaitement mise en relief par Patrick Youssef au début de l'émission, de se concentrer sur le soulagement des souffrances terribles des populations qui sont bien entendu aujourd'hui la cible des groupes armés djihadistes, avec d'ailleurs des différences, hein, selon l'attitude de ces groupes vis-à-vis de ces populations, mais qui souffrent également des attaques de groupes d'autodéfense, de milices communautarisées, de groupes criminels, voire d'hommes armés non identifiés, et également de certaines unités des forces de défense et de sécurité. Donc il nous paraît que l'objectif majeur de l'intervention au Sahel aujourd'hui devrait être recentré sur la protection des populations avant tout. Ce qui passe aussi par une judiciarisation des théâtres d'opération. On a beaucoup mis l'accent sur l'instrument militaire. La chaîne pénale est absolument essentielle pour arriver à mieux gérer cette crise. La lutte contre l'impunité en relève notamment. Il est également essentiel de favoriser un accès humanitaire beaucoup plus important. Et enfin, il est également indispensable d'inscrire l'approche aujourd'hui dans un cadre de dialogue politique beaucoup plus large, parce que la lutte contre des groupes armés terroristes, c'est un objectif de niveau tactique, de niveau opérationnel, mais ça ne peut pas être un objectif politique en soi, ni même stratégique.
Léonard Colomba Pétingue, qu'est-ce qu'on appellerait plutôt une mission efficace? Sur quels critères il faudrait juger de l'efficacité d'une mission, et notamment de la mission française et européenne au Sahel?
Oui, c'est une question éminemment complexe, en fait. On parle beaucoup d'inefficacité de l'Union européenne. Moi, je me garde toujours de tirer cette conclusion-là. C'est très difficile de juger de l'efficacité pour deux raisons. Pour une raison méthodologique et une raison plus théorique, j'ai envie de dire. Une raison méthodologique, c'est très compliqué d'isoler l'impact d'un acteur ou d'un programme dans un environnement qui, précisément, est saturé par l'offre d'aide et de renforcement des capacités. Il y a la possibilité de faire de l'évaluation de projets, comme dans le domaine du développement, ce qui est fait actuellement, mais vous obtiendrez difficilement des résultats sur l'impact de long terme. Et puis, pour une raison, je disais, théorique, parce que le choix des indicateurs, en fait, c'est un acte éminemment politique. Est-ce qu'on prend, comme on semble le faire implicitement, la question de l'atteinte aux droits de l'homme? Est-ce qu'on procède à des sondages d'opinion auprès des citoyens pour voir la confiance qu'ils accordent à leurs forces de défense défense et de sécurité? Est-ce qu'on regarde le nombre de plaintes déposées, le nombre de militaires formés, ce qui est fait aussi? C'est très compliqué, ce qui aboutit à une situation où vous avez Angela Merkel qui dit que une mission comme la mission civile de l'Union européenne au Niger est très efficace, et un rapport de la Cour européenne des comptes qui dit que la mission est faiblement efficace. Donc, vous voyez.
Merci beaucoup Léonard Colomba-Pétain d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes doctorant aux séries de Sciences Po et que vous avez publié l'année dernière La coopération militaire franco-africaine, une réinvention complexe 1960-2017 chez l'Armatan. Et merci à vous Niagale Bagayoko. Je rappelle que vous venez de fonder avec d'autres la coalition citoyenne pour la voix de la société civile. Merci d'avoir été avec nous. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Jules Crétois, Alia Tovin, Lucas Lazo et Léo Grillet, réalisée par Luc-Jean Reynaud. À la technique, c'était Jean-Guilain Meige. On se retrouve demain dimanche même heure pour évoquer le sommet européen qui doit se terminer a priori ce soir à Bruxelles, ainsi que la question du fret ferroviaire dont on nous promet qu'il sera relancé. Il est 13h49, vous écoutez France Culture. C'est l'heure de retrouver Nicolas Martin pour les idées claires. Aujourd'hui, le voile, une exception française